Nous voulons te dire merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Nous te disons merci Seigneur pour les écritures que tu as toi-même inspirées. Merci parce que tu as utilisé des hommes pour nous transmettre ce glorieux message, des hommes qui ont été divinement inspirés par toi. Nous te remercions parce que ces paroles qui ont été écrites pour certaines il y a si longtemps sont vraies. Et ce matin, nous voulons confesser, Seigneur, que ta parole est vraie. Nous voulons confesser, Seigneur Jésus, que cette parole s'accomplit aussi aujourd'hui. Nous confessons que rien ne t'est impossible, que tu es le Dieu à qui tout est possible et que tu es ce Dieu qui est notre Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Éclaire-nous à travers la lecture de ta parole dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Il a été question ce matin, en introduction, de David. David qui, comme nous le savons, est un des personnages phares, clés de l'Ancien Testament. Un homme qui, comme ça nous a été rappelé, qui a commis de nombreuses fautes. Un homme aussi qui a eu un ministère béni. Un homme qui a su se relever. Il y a de nombreux éléments que nous pourrions relever dans la vie de David. Mais il y a un élément en particulier que j'aimerais souligner ce matin. Quelque chose qui lui est arrivé. David a souvent traversé des tempêtes. Il a souvent eu des coups durs qui lui sont arrivés. Lorsqu'il était jeune, qu'il était berger, lorsqu'il a reçu l'onction de Dieu sur sa vie, lorsqu'il a enfin pu rentrer dans son ministère, être pleinement roi, régner à Jérusalem partout, à de nombreuses reprises, des ennemis sont venus, se sont manifestés. Et il dira quelque chose qui revient souvent dans le livre des Psaumes, j'y ai pensé tout à l'heure, « L'Éternel m'a délivré de tous mes ennemis ». Parfois, c'était au passé. L'Éternel m'a délivré, donc la chose avait déjà eu lieu. Et quand la chose n'avait pas encore eu lieu, il confessait comme une parole de foi qu'il disait « Le Seigneur est celui qui me délivrera de tous mes ennemis. Je ne vis pas encore la chose, je ne vois pas encore la chose, mais le Seigneur est celui qui va me délivrer de tous mes ennemis. » Et la pensée que j'aimerais retenir ce matin est cette pensée où ce qui s'est passé dans la vie de David, c'est-à-dire cette notion de tempête que nous retrouvons à plusieurs reprises. Alors j'aimerais faire un bond maintenant dans le Nouveau Testament et voir d'autres personnes plus proches de nous qui, elles aussi, ont vécu une tempête. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir l'Évangile de Marc au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 35. Plus fort que toutes nos tempêtes, David a connu des tempêtes, il a été vainqueur à travers ou dans toutes ces tempêtes. Les disciples ici de Jésus connaissent aussi une tempête et nous allons voir la leçon que le Christ, et à travers ce qu'eux ont vécu, que le Christ veut nous enseigner aussi aujourd'hui, ou plusieurs leçons, ou plusieurs pistes que le Christ aimerait que nous puissions retenir pour notre propre vie par rapport à cette notion de tempête. Nous lisons à partir du verset 35, le récit de la tempête apaisée. Je vais lire dans la traduction de la Tob. Je trouvais qu'elle était pas mal pour ce texte. Et je trouve que c'est intéressant dans l'évangile de Marc, parce que l'évangile de Marc est plus court que les autres évangiles, comme vous le savez. C'est un évangile qui est beaucoup plus ramassé, succinct. Un évangile aussi qui, finalement, à mon avis, est le plus simple des évangiles à lire, le plus facile. On dit souvent aux gens qu'il faut lire l'évangile de... aux personnes qu'il faut lire l'évangile de Jean. Mais l'évangile de Jean, voilà, c'est haut. Hein ? Jean était quelqu'un... de cultiver, etc. Marc, on voit que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus terre à terre. Ce jour-là, le soir venu, alors que Jésus vient d'enseigner concernant le royaume de Dieu, donc il a donné quatre enseignements avant ce texte, c'est-à-dire avant Marc 4, à partir du verset 35, le Christ a donné quatre enseignements à ses disciples sur le royaume de Dieu. Et ici, eh bien, c'est comme si on passait à la phase pratique. Vous voyez, il y a une succession, les éléments se succèdent dans les évangiles et ils ne sont pas mis là par hasard. On voit que le Christ enseigne sur le royaume de Dieu, il donne certains principes, et puis à partir du verset 35, il va cette fois-ci passer à la phase pratique. Et dans cette phase pratique, il va y avoir aussi quatre enseignements qu'il va donner. Le premier enseignement, c'est celui que nous allons lire ce matin, celui que nos Bibles ont appelé la tempête apaisée, ou alors comme le propose la Bible du semeur, plus fort que la tempête. Ensuite, il va y avoir un deuxième enseignement qu'il va donner, à savoir que le Christ est plus fort que les démons. Après, il y a un troisième enseignement pratique qu'il va leur donner, à savoir qu'il est plus fort que la maladie. Et après, il y a un quatrième enseignement pratique qu'il va leur donner, à savoir que le Christ est plus fort aussi sur la mort. Donc d'une part, dans le royaume de Dieu, il y a la partie théorique, et souvent nous, on aime bien la partie théorique, l'enseignement, mais il y a aussi la partie pratique. Et Jésus donne les deux à ses disciples. D'abord, il donne la partie enseignement théorique, et après, il donne la partie pratique. Et là, nous entrons dans la partie pratique, où il y a bien sûr des éléments d'information qui sont destinés à nous apprendre quelque chose d'important sur la personne du Christ. Donc je reviens au verset 35. « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d'autres barques avec lui. Combien, on ne sait pas. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque au point que déjà la barque se remplissait. Imaginez un peu la situation. Et lui, à l'arrière, sur le coussin, dormait. Mes chers. Ils le réveillent et lui disent, « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n'avez pas encore de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se disaient entre eux, « Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Dans ce chapitre, comme je viens de le lire, et plus précisément dans ce texte que je viens de lire ici, l'objectif de Jésus concernant la pratique du royaume de Dieu est d'enseigner de manière théorique, mais surtout pratique, un grand principe à ses disciples. Il y a une grande leçon que Jésus veut leur enseigner, une leçon que nous aussi nous avons besoin d'apprendre, ou alors de réapprendre. Et nous allons découvrir au fur et à mesure quelle est cette grande leçon que le Christ veut leur apprendre. Mais revenons d'abord quelques instants à notre texte. Il est question ici d'une tempête dans laquelle toute cette équipe va être prise. Premier aspect que j'aimerais souligner et qui me paraît important par rapport à notre texte, c'est que dans notre existence, il y a bien des tempêtes pour lesquelles nous ne sommes absolument pas responsables. Il y a bien des événements dans notre vie qui peuvent nous arriver ou qui parfois nous arrivent et nous n'y pouvons absolument rien. Par exemple, une maladie, par exemple, nous perdons notre travail ou tout d'un coup il y a un conflit avec quelqu'un alors qu'apparemment on a fait tout ce qu'il fallait pour que la situation se déroule bien. Et tout d'un coup, on ne sait pas, il y a quelque chose, voilà, qui nous arrive. Notre vie se déroule apparemment bien, nous sommes satisfaits de ce que nous vivons, et sans explication, voilà que tout d'un coup, il y a un coup dur, ou nous allons qualifier la chose peut-être de coup dur, tout dépend aussi de la manière dont nous avons de percevoir et de ressentir les événements, et tout d'un coup, cela va nous tomber dessus. Et moi, je crois que ce texte met en évidence cela dans un premier temps. Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples ne vont pas être culpabilisés à cause de cela. Souvent, nous, lorsqu'il y a des événements difficiles ou douloureux qui nous arrivent dans notre vie, on a tendance à se culpabiliser. Pourquoi ? Parce qu'on cherche toujours des responsables. Vous avez remarqué ? Dès qu'il nous arrive quelque chose ou dès qu'il arrive quelque chose aux autres, et moi, je suis comme ça, et je dois lutter contre cette tendance naturelle qui est là en moi et qui n'est pas juste, qui n'est pas bonne, on va chercher des responsables. Si ça m'arrive, c'est à cause de ci, ou alors parce que tu n'as pas fait ci, ou parce que tu n'as pas fait ça. Mais finalement, la Bible n'entre pas, ou les principes bibliques qui nous sont donnés dans l'Écriture n'entrent pas dans cette catégorie-là. C'est nous qui souvent entrons dans cette catégorie-là. Pourquoi ? Parce que nous avons été plus ou moins structurés ou conditionnés ainsi depuis notre plus tendre enfance. On cherche toujours à comprendre comment les choses fonctionnent. Dans notre société, on est beaucoup là-dedans, on essaye de comprendre, on est toujours en train d'analyser, on veut savoir pourquoi c'est arrivé, mais finalement, le fait de savoir pourquoi c'est arrivé, ça ne sert à pas grand-chose. Pourquoi est-ce que cette tempête est arrivée ? On le sait. Je vais vous donner quelques éléments d'explication dans les minutes qui vont suivre. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas savoir comment, pourquoi cette tempête est arrivée. Ce qui est important, c'est que la chose est là et maintenant, il va falloir réagir. Maintenant, il va falloir se positionner. Maintenant, il va falloir trouver des solutions concrètes et pratiques. En disant cela, il y a bien sûr dans nos vies des éléments ou des événements pour lesquels nous sommes responsables. Si nous buvons plus que ce qui est raisonnable, certain que nous risquons de nous retrouver avec un taux d'alcoolémie dans le sang qui sera trop élevé. Par conséquent, on risque d'avoir des problèmes avec la justice si on se fait attraper par les copains. On va dire les copains ce matin, c'est plus sympa. Hein ? Voilà, surtout on est quand même dans une église. Hein ? L'autre jour, ils étaient juste à côté de chez nous, je me suis dit, tiens, il commence à faire beau, les voilà qui ressortent. Et effectivement, ils en ont trouvé quelques-uns, il y en a un ou deux qui pleuraient, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais bon, c'était pas jojo. Il y a des événements dans notre vie où nous sommes responsables, si on boit trop, si on fume trop, etc. Bien sûr, on sait que ça va avoir une incidence sur notre corps, et par conséquent, après, si on tombe malade, c'est parce que nous avons trop forcé sur telle ou telle substance. Mais il y a bien d'autres événements pour lesquels nous n'y sommes absolument rien. Les disciples ici n'étaient pas responsables de cette tempête. Cette tempête est arrivée pourquoi ? Ce qui se passe ici, c'est tout simplement un phénomène naturel qui était bien connu. Nous sommes sur le lac de Tibériade, qui se trouve 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Et certains jours de l'année, lorsqu'il fait chaud et lorsqu'il y a certains courants d'air qui vont se rencontrer, en même temps un vent frais et un vent chaud, il va se produire un phénomène météorologique qui est bien connu, qui se déroule par exemple ou qui a lieu souvent à la période de septembre, octobre, novembre, décembre, dans les Antilles ou dans les grandes Antilles. C'est souvent la période où on sait où il va y avoir des ouragans, où il va y avoir des tempêtes tropicales. Souvent, les gens ils disent oh, « Mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Mais on sait très bien que ça a lieu à cette période donnée de l'année. On sait très bien que c'est un phénomène naturel qui se déroule et un phénomène naturel contre lequel on ne peut, jusqu'à ce jour, rien faire, si ce n'est de se protéger, si ce n'est de prévenir, pour qu'il ne nous arrive pas quelque chose par la suite de dramatique. Donc, les disciples ici n'étaient pas responsables de ce qui leur arrivait. Et je crois que nous avons là un premier élément d'information. Lorsque la tempête s'abat sur notre vie, quelle que soit la nature de cette tempête, rappelons-nous, nous ne sommes pas forcément responsables. Et même si nous sommes responsables, ce n'est pas que Dieu veut nous punir ou quelque chose ou quoi que ce soit. Comme je dis souvent, c'est nous-mêmes qui nous punissons parce que nous avons pris certains mauvais chemins. Mais nous ne sommes pas forcément responsables de la chose. Donc, dans un premier temps, déjà se déculpabiliser, pas chercher à savoir le pourquoi du comment, la chose nous arrive tout simplement, pourquoi on ne sait pas, on n'est pas responsable de la chose, mais on prend simplement en considération, voilà je suis dedans, mais comment est-ce que je vais maintenant réagir ? Nous voyons ici dans un deuxième temps que les disciples de Jésus réagissent en étant saisis d'angoisse. Ils réagissent par la panique. Alors qu'ils ont avec eux dans la barque le Christ. Et souvent nous aussi, et moi le premier, lorsque il y a un événement douloureux qui s'abat sur ma vie ou sur notre vie, ou que tout d'un coup nous sommes confrontés à quelque chose de difficile, où on ne sait pas comment réagir, on se dit, nous aussi personnellement, mince alors, on se laisse gagner tout doucement par la peur, par la crainte, et on commence progressivement à douter de quelque chose dont j'ai déjà parlé à deux ou trois reprises, je crois, ici, mais j'aimerais simplement dire encore un mot là-dessus ce matin parce que ça me paraît important. On commence à douter de quoi ? De quoi les disciples ont-ils douté lorsqu'ils étaient dans la barque ? Le Christ était là avec eux, il était certainement à l'arrière de la barque, en train de dormir sur le coussin qui servait normalement à ceux qui étaient dans la barque. Normalement, il aurait dû s'asseoir sur le coussin, parce qu'il n'y avait pas de, certainement pas, il n'y avait pas de petite sellette dessus. Donc il s'est assis sur ce, enfin il a pris ce coussin plutôt pour poser sa tête et pour dormir. Mais le Christ était avec eux dans la barque. Et lorsqu'il se laisse submerger par les vagues et par l'angoisse que cela produit en eux, il doute à ce moment-là de quoi ? Il doute de la bonté du Christ à leur égard. Il doute que Dieu finalement est bon, que Dieu soit bon et que Dieu prenne en considération ce qui est en train de leur arriver. Et nous aussi, souvent, lorsqu'on se laisse gagner par la crainte, on est en train de douter de quoi ? On est en train de douter de la bonté de Dieu. Et comme je le dis souvent, on croit que Dieu est bon. Nous le chantons, nous l'affirmons, mais nous pensons que Dieu est parfois meilleur pour les autres. Il est bon, oui, mais il est meilleur pour les autres. Ou alors on se dit, non, l'autre a une tempête qui est plus forte, l'autre il a un cancer. Moi j'ai juste un petit problème dans mon travail, quand même, comparé à un cancer c'est plus important. Donc Dieu, il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Enfin si, on pense, on sait, il peut s'occuper de tout le monde, mais quand même, là ça lui fait beaucoup de choses. Beaucoup de problèmes différents dans les églises, en plus multipliés par toutes les églises qu'il y a sur Strasbourg, en Alsace, il y en a pas mal des églises en Alsace. Quand même, est-ce qu'il va aussi s'occuper de ma situation dans mon travail ? Est-ce qu'il porte aussi un œil sur moi ? Et intérieurement, on se dit, oui, Dieu est bon, mais il est meilleur, ou il s'occupe davantage des autres. Et ce faisant, nous en venons à douter de la bonté de Dieu. Ce faisant, nous en venons à douter de l'intérêt de Dieu pour notre propre situation. Pour la situation des autres, nous disons oui, ok, mais pour notre propre situation à nous, nous disons ce n'est pas aussi important. Et puisque ce n'est pas aussi important, nous n'allons pas forcément attendre l'aide nécessaire. Ou alors nous allons avoir, comme nous le verrons tout à l'heure, quelques doutes concernant la capacité du Christ à venir nous secourir là où nous trouvons. Dieu est informé de notre situation. Dieu est parfaitement au courant de ce qui se passe. C'est ce que nous voyons dans cet épisode. C'est le deuxième élément d'information qui ressort. Le premier élément d'information, une tempête s'abat, nous ne sommes pas forcément responsables de la chose. Par conséquent, ne nous culpabilisons pas, ne cherchons pas forcément toujours des responsables à chercher à comprendre le pourquoi du comment. Deuxième élément d'information qui nous est donné ici, même si la tempête est forte et que nous commençons à douter de la bonté de Dieu, le Christ est présent, que nous le sentions ou non. Ça, c'est important. Qu'est-ce que les disciples du Christ ressentaient ici ? La seule chose qu'ils ressentaient, c'était la barque, d'un point de vue physique, qui tremblait, qui se remplissait d'eau. Ils se disaient, nous en avons encore peut-être pour 5 minutes ou pour 10 minutes à vivre. Et intérieurement, émotionnellement, j'imagine que leurs émotions étaient totalement chamboulées. C'était comme ce jeu, le chamboule-tout. Ça allait dans toutes les directions. Et pourtant, ce qui est fou dans cet épisode, c'est que Dieu en chair et en os était à quelques mètres du plus éloigné et à quelques centimètres de celui qui était le plus près. Dieu en chair et en os qui est là, présent avec eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même lorsque nous ne ressentons rien et que nous avons l'impression que tout part en live, que tout part dans une mauvaise direction, Jésus maîtrise parfaitement la situation. Ça, c'est une vérité que nous devons nous dire et nous redire. Jésus maîtrise parfaitement la situation. Sinon, il n'est plus Dieu. La preuve que Jésus maîtrisait parfaitement la situation, lorsqu'il s'est réveillé, comment est-ce qu'il a réagi ? Ouf ! Quand il s'est réveillé, il n'a pas dit où est le téléphone portable, vite, hein ? On envoie un SMS au père. « Mon père, je suis dans de sales draps, là. C'était pas prévu. Normalement, c'était une traversée tranquille qui devait avoir lieu. La chose n'était pas prévue. Est-ce que tu peux me donner un coup de main ?» Non. Lorsque Jésus se lève, il n'a pas l'air surpris de ce qui arrive. Pourtant, il était en train de dormir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il connaissait, qu'il savait certainement ce qui allait se passer. Et ça veut dire que même dans son sommeil, et pour nous aujourd'hui, le sommeil pourrait être non pas un sommeil physique, puisque nous savons qu'il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël, mais le sommeil pourrait être l'apparent silence de Dieu, l'apparent silence du Christ qui ne répond pas, qui semble absent, où nous ne ressentons pas sa présence, où nous lui demandons « mais qu'est-ce que tu fais ?» et nous lui envoyons régulièrement des SMS, nous lui téléphonons, et on se dit « mais il ne répond pas » ou « il ne répond pas dans le sens que j'aimerais ». Et il était là et il était présent et il ne s'est pas levé, il n'a pas dit Qu'est-ce qui arrive? Il maîtrisait parfaitement la situation. La preuve, il va se lever immédiatement, il va commander aux éléments, comme nous le verrons dans quelques instants, d'arrêter. Que nous le sentions ou non, le Christ est présent. Attention, frères et sœurs, à ne pas trop baser notre foi sur que l'aspect émotionnel et ressenti. C'est un grand danger qui s'est manifesté à travers toute l'histoire de l'Église. Et il y a toujours eu ces deux tendances, une tendance très axée sur l'aspect émotionnel et puis une tendance très axée sur l'aspect intellectuel réflexion. Les deux vont de pair et les deux sont nécessaires. Chez certaines personnes, il y aura plus l'aspect émotionnel qui se manifestera. Chez d'autres, ce sera plus l'aspect intellectuel réfléchi en fonction de la manière dont ils sont structurés aussi et dont nous vivons et dont nous ressentons la chose. Mais notre foi ne se base pas uniquement sur ce que nous ressentons, sur ce que nous voyons, sur ce que nous percevons. Parce que sinon, nous avons une mauvaise perspective des événements. Ou alors, nous avons une perspective qui est uniquement une perspective, vous comprenez, à courte durée. À durée limitée, au lieu de voir à moyen et de voir à long terme ou de voir plus loin. C'est dans ce sens-là que la Bible dit à plusieurs reprises, en particulier dans l'Épître aux Hébreux, « Gardez vos yeux fixés sur Jésus », c'est-à-dire que nous voyons loin. Donc le Christ était présent et maîtrisait parfaitement cette situation. Et même dans nos vies, lorsqu'il y a des orages qui s'abattent, que nous les considérions comme petits, insignifiants, ou que nous les considérions comme ce qu'ils sont peut-être réellement graves, dramatiques, le Christ est toujours informé de la situation. Amen. Il sait ce qui se passe. Et même si nous ne maîtrisons rien, les disciples ne maîtrisaient absolument rien. Ils étaient là certainement en train d'essayer d'écoper, de sortir l'eau de la barque, comment, j'en sais rien, je ne sais pas s'ils avaient des seaux ou s'ils avaient un ustensile qui leur permettait de sortir ou c'était simplement avec les mains qu'ils essayaient de sortir l'eau. Eux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais dans le cas présent, tout ce qu'ils pouvaient faire à vue humaine ne servait absolument à rien ou plus à rien. C'était trop tard. Ils ne pouvaient pas eux-mêmes remédier à cette situation. Comme vous-même, comme nous-mêmes dans nos vies, nous ne pouvons parfois pas remédier à certaines situations. Et nous devenons alors totalement dépendants d'une intervention, d'une parole, d'une aide, d'un secours extérieur. Cette histoire, et c'est là un troisième élément, met aussi en évidence, et c'est à mon avis là le cœur du texte, qui nous est proposé ici, Marc 4, versets 35 à 41, cette histoire met en évidence une grande vérité. Finalement, si la chose est arrivée ici, et la grande leçon que Jésus veut laisser à ses disciples, et par là même à nous-mêmes, et notez-le, c'est une leçon pas simplement théorique, mais c'est une leçon pratique, la grande leçon qu'il souhaite marquer au fer rouge dans l'esprit de ses disciples et dans notre esprit, c'est Jésus, ou plutôt le Christ qui parlerait, qui dit « Je suis fort ». La grande leçon qui est mise ici en évidence, c'est que Jésus n'est pas simplement puissant, mais Jésus est tout puissant. Puissant, c'est déjà fort, c'est déjà bien, mais tout puissant, ça veut dire quoi ? Tout-puissant, ça veut dire qu'il est puissant sur toute chose. Et nous le voyons ici, le fait de commander aux éléments est quelque chose qui dans la Bible, est seulement attribué à Dieu. Le seul qui soit capable de diriger les éléments et d'avoir pouvoir d'agir sur les éléments, nous le voyons dans l'Ancien Testament, c'est uniquement Dieu. Les magiciens, les Harry Potter et compagnie, eux, ne sont pas capables d'agir de cette manière-là, avec autant de force et autant de succès sur les éléments. Ils le peuvent, certes, ils peuvent faire certaines choses, nous allons le voir dans quelques instants, mais la capacité d'arrêter comme ça et de tout d'un coup, ramener le calme, c'est uniquement Dieu qui est capable de se manifester, même si l'ennemi est capable aussi, d'une certaine manière, d'agir sur les éléments. Mais il n'a pas cette toute-puissance comme l'a le Christ. À la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et à partir du verset 18, Jésus, lorsqu'il quittera cette terre, dira ceci: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et notre ami Such, qui a prêché la semaine dernière, nous rappelait dans Philippiens 2, lorsqu'il nous parlait de l'incarnation de Jésus-Christ, eh bien, il y a dans ce passage que nous avions lu, le verset 9 dans Philippiens 2, où il nous est rappelé que puisqu'il y a eu la croix, Dieu l'a élevé, c'est-à-dire le Christ, à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Mes chers, la vision dans le Nouveau Testament, et j'insiste là-dessus, c'est le troisième élément, est la vision d'un Christ tout-puissant. Les orthodoxes appellent cela le Christ Pantocrator, c'est-à-dire le Christ tout-puissant, mais qui n'est pas simplement tout-puissant sur la terre ou dans certains endroits de la terre, là où il y a par exemple beaucoup de chrétiens, où là les choses se déroulent plus ou moins bien, mais c'est le Christ qui est puissant sur l'univers tout entier, sur tout le cosmos. Ça veut dire qu'il n'y a aucune partie de l'univers dans laquelle Christ n'est pas puissant ou Christ ne sait pas ce qui se passe et ne soit pas capable d'intervenir et d'agir. Christ est celui qui est proche de nous, oui. Christ est le serviteur que nous sommes appelés à suivre, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Mais là, la leçon que Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, c'est qu'il est tout-puissant. Et les disciples vont être effrayés par cette toute-puissance. Puisqu'à la fin, Jésus va leur reprocher leur manque de foi, les disciples vont se dire « Mais qui est cet homme ?» Il commande aux éléments. Et lorsque nous sommes mis en face de la puissance de Dieu, nous pouvons être parfois effrayés. Effrayés non pas dans le sens que, comme nous avons été effrayés, que nous avons craint parce que quelque chose nous est tombé dessus, mais effrayés dans le sens, on se dit mais à qui j'ai affaire? Qui est cet homme? D'où lui vient un tel pouvoir? Comment est-il capable d'arrêter les éléments, de faire des miracles, de ressusciter des morts, juste par sa seule parole? C'est le Christ Pantocrator, du grec pan qui signifie tout, et kratos qui signifie puissant. C'est le Christ que vous voyez représenté sur les icônes orthodoxes. Vous avez peut-être vu un Christ généralement qui sourit dans une main la Bible et dans l'autre main, il fait un signe de paix comme cela et les deux bras sont étendus. C'est le Christ qui règne sur tout l'univers. C'est la signification de ces icônes. Le Christ qui est le champion de Dieu, le Christ qui est tout-puissant et où absolument rien du tout n'entre ou n'est en dehors de son contrôle. Et ça, c'est la grande vérité que Jésus est en train d'enseigner ici à ses disciples. Notez cela, il n'y a aucune sphère de nos vies. Il n'y a aucune sphère de nos vies où Jésus ne soit pas capable d'intervenir et d'agir. Aucune sphère de nos existences. Il est capable d'intervenir dans nos vies pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Il est capable d'intervenir, bien sûr, pour nous consoler. Il est capable d'intervenir pour nous délivrer, comme il a délivré David à de nombreuses reprises. Il est capable d'intervenir pour nous guérir, quelle que soit la nature et quelle que soit la profondeur du mal qui nous touche ou qui touche les proches. Puisqu'il est le Christ Tout-Puissant. Il est le Christ qui est capable d'intervenir dans notre travail, il est le Christ qui est capable d'intervenir dans nos vies, si nous avons des problèmes personnels ou dans notre famille, il est le Christ qui est capable d'intervenir dans toutes les sphères de notre existence et il n'y a aucun domaine de notre existence, il n'y a aucune sphère de notre existence où il ne soit pas capable d'agir. Amen. Aucune sphère. Nous avons tendance parfois, nous, à cloisonner les différentes sphères de nos existences. Il y a ce que je vis à l'école, il y a ce que je vis au lycée, il y a ce que je vis au travail, il y a ce que je vis à la maison, il y a ce que je vis avec mes copains, il y a ce que je vis devant Internet, il y a ce que je vis devant la télévision, il y a ce que je vis lorsque je vais au cinéma ou lorsque je sors avec mes amis, il y a ce que je vis à l'église, il y a ce que je vis dans les groupes de quartier. Non, il y a ce que je vis tout simplement devant Dieu. Et dans toutes ces sphères-là que moi, parfois, je vais cloisonner, le Christ est là, présent, et il est prêt là à nos côtés, et il est capable de se manifester tout simplement. En disant cela, je ne dis pas qu'il fait ce que nous voulons. Nous parlons du grand principe spirituel que Jésus donne à ses disciples, à savoir qu'il est puissant pour agir dans n'importe quelle sphère. Et nous avons du mal à croire cela, mes amis. Moi, j'ai du mal à le croire. La dernière fois, quand j'étais en Afrique le mois dernier et qu'on a prié pour les malades, moi, le premier, j'ai été surpris quand des gens ont été guéris. Vous imaginez? Alors qu'avant, j'ai prié, demandant à Dieu de se manifester, ou que surpris parfois quand des gens sont sauvés parce qu'ils vivent des situations tellement difficiles, on se dit, mais je l'entends. Et tout d'un coup, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, mais est-ce que c'est bien vrai? Imaginez comment l'incrédulité, imaginez comment le doute est inscrit parfois dans nos cœurs, même en tant que croyants. Nous avons été tellement formatés d'une certaine manière que nous avons des doutes, où nous mettons toujours des si ou des peut-être. La réponse ne nous appartient pas, l'exaucement ne nous appartient pas, ce qui nous appartient, c'est simplement de croire qu'il est puissant. C'est tout. C'est juste la part que nous avons à faire. Puissant, croire qu'il est capable d'agir pour nous délivrer. Et puis ce texte met aussi une chose en évidence, et je termine tout doucement avec deux éléments encore. Un élément que nous voyons aussi ici, se manifester. Le Christ est puissant pour nous délivrer de nos tempêtes. Et ce que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a certaines tempêtes de nos vies pour lesquelles nous n'y pouvons rien, mais il y a d'autres tempêtes qui viennent effectivement de certains choix que nous avons faits. Et puis parfois, notons-le aussi, il y a des tempêtes qui sont le fruit de l'œuvre de l'ennemi. Et c'est ce que nous voyons directement dans ce texte. Dans ce texte, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. C'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Et pourquoi? Qu'est-ce qui me fait dire cela? Eh bien, lorsque Jésus va se lever et lorsque Jésus va commander aux éléments de se taire, lorsqu'il se lèvera et qu'il va dire au vent « tais-toi », le verbe grec qui est utilisé ici, eh bien, c'est le verbe qui, dans tous les autres textes du Nouveau Testament, est exclusivement utilisé dans des cas d'exorcisme, c'est-à-dire dans des cas où Jésus chasse des démons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière cette tempête qui s'est levée, qui est, nous l'avons dit, un phénomène naturel, Jésus a discerné ce jour-là l'empreinte du diable. L'empreinte du diable qui a voulu le tuer et tuer ses disciples. Alors est-ce que c'est le diable directement qui a fait lever cette tempête? Ou alors est-ce que c'est le diable qui s'est simplement servi de ce phénomène naturel qu'on connaît pour détruire le Christ? Peu importe. Il est capable de le faire, il est puissant, mais le Christ est tout puissant, puisque par un simple mot de sa bouche, il fermera la gueule, nous pouvons le dire, ou la bouche, disons plutôt les choses ainsi, au diable. Mais Jésus discerne derrière cette tempête, et vous pouvez regarder le verbe grec qui est utilisé, c'est utilisé dans tous les autres passages du Nouveau Testament, lorsque Jésus chasse des démons. Et dans ce texte-là, dans ce passage-là, Jésus discerne l'empreinte du diable qui cherche à le tuer, lui, et à tuer ses disciples. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y arriver parfois dans nos vies, mais cela, le Saint-Esprit doit nous le révéler. On doit en avoir la conviction. Il ne s'agit pas de commencer à chasser le diable ou à prendre position au niveau spirituel n'importe comment. Mais si le Saint-Esprit nous le révèle, nous devons aussi prendre autorité comme le Christ a pris autorité ici. Et puis, quatrième élément d'information qui apparaît dans ce texte, il y en aurait bien d'autres, mais j'aimerais terminer avec celui-ci avant que nous ayons un temps de prière. Quatrième élément d'information, c'est le reproche que nous retrouvons à la fin. Le reproche du Christ que nous retrouvons ici formulé à l'encontre de ses disciples, une fois que celui-ci s'est levé et a manifesté sa puissance, a remarqué encore ça. Il manifeste sa puissance en se levant et par une seule parole ou par deux paroles, « Silence, tais-toi ». C'est fort quand même. Une seule parole et c'est terminé. Ça veut dire que par sa parole, il crée, il commande, il a la capacité, ce que sa parole produit, ce qu'elle dit, tout simplement. C'est fort. Et le quatrième et dernier élément que j'aimerais souligner est celui-ci au verset 40. Une fois que le vent est tombé et que le diable a lâché son emprise, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore. Jésus ne reproche pas à ses disciples d'avoir douté. Jésus ne reproche pas à ses disciples la tempête. Le Christ ne nous reproche pas les événements douloureux. Même si parfois nous sommes responsables dans nos vies, je le pense d'une certaine manière, puisque nous souffrons assez à cause de nos propres échecs, de notre propre nature, il ne nous reproche pas tout cela. La seule chose que le Christ reproche à travers tous les évangiles, vous pouvez le lire et le relire, et je le dis souvent, c'est simplement, enfin simplement, c'est pas simplement, c'est énorme, c'est le doute, c'est l'incrédulité. C'est ce que Jésus va reprocher ici à ses disciples. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que ce qui nous... que l'incrédulité, c'est cette peur, cette crainte, c'est ce qui est opposé tout simplement à la foi. Et à la base de toutes nos craintes, à la base de toutes mes craintes, à la base de toutes mes peurs, à la base de tout ce que je crains dans ma vie par rapport à moi-même et par rapport à ce qui m'arrive et au fait que je crois ou je pense qu'il ne peut pas agir ou qu'il ne va pas agir parce qu'il semble silencieux, à la base de toutes ces craintes, il y a toujours un manque de confiance. Et ici, ce que Jésus reproche à ses disciples, c'est ce manque de confiance, ce peu de foi. Et notez que Jésus leur reproche le peu de foi, non pas dans le sens où nous l'entendons parfois. Quand nous entendons peu de foi, nous entendons quoi? Nous entendons, nous avons un peu et il nous faut un peu plus de foi. C'est comme si vous prenez, je ne sais pas moi, des médicaments ou alors vous prenez de la vitamine C, il vous faut un petit peu plus de vitamine C pour que ça aille mieux, pour que vous soyez plus en forme, ou un peu plus de médicaments pour que vous guérissiez, ou alors un peu plus de nourriture pour que vous soyez rassasié, par exemple. Ce n'est pas dans ce sens-là que Jésus reproche à ses disciples. Il ne leur dit pas peu de foi dans le sens « vous n'en avez pas assez et il vous en faut plus ». Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un supplément qu'on doit recevoir. Non, la foi, vous l'avez. La foi, vous l'avez. Vous devez simplement laisser la foi qui est déjà présente en vous, laisser cette foi s'exprimer. Laissez cette foi comme rayonner en vous, comme une lumière. La lumière est déjà présente en vous. Quand Jésus dira à ses disciples, vous êtes la lumière est là. On a juste à la laisser pouvoir s'exprimer et briller. La foi, elle est là, elle est présente. Elle doit juste pouvoir s'exprimer. Et elle va pouvoir s'exprimer quand? Quand je vais laisser tomber mes craintes, quand je vais laisser tomber mes doutes, quand je vais commencer à prononcer une parole de foi, c'est-à-dire non pas une parole d'incrédulité. « Oh, mais je pense ou j'espère que le Seigneur va m'aider. » Ça, ce n'est pas une parole de confiance. Une parole de foi, c'est « Je crois que Dieu est tout-puissant et je crois qu'il connaît ma situation et je crois qu'il va m'aider. » Je n'ai pas à lui dicter tout ce qu'il doit faire, mais je crois qu'il est puissant et je crois qu'il agit et je lui fais confiance. Je le sens peut-être, tant mieux. Je ne le sens pas aussi, tant mieux. C'est le même Jésus qui agit, que je le sente ou que je ne le ressente pas. Vous saisissez? À la base de toutes nos peurs, de toutes nos craintes, il y a toujours ce manque de confiance. Et s'il y a une chose que le Christ a reprochée, et c'est le seul reproche que nous voyons dans ce texte-là, c'est simplement ce manque ou ce peu de foi qui s'est exprimé, non pas dans le sens qu'ils n'en avaient pas assez, mais ils n'ont pas laissé la foi les envahir. Ils ont laissé la crainte s'envahir. Nous voulons prier. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin et nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as donnée. Merci parce qu'à travers ce texte de l'Écriture, tu nous rappelles que tu es le Tout-Puissant, qu'il n'y a aucun domaine, aucune sphère dans nos vies ou dans la vie de nos chairs, ou dans les éléments ou dans les événements que nous vivons quotidiennement où tu ne sois pas informé, où tu ne sois pas capable d'intervenir. Seigneur, tu es tout-puissant et aujourd'hui encore, tu es capable de te manifester. Nous te bénissons ce matin dans le nom de Jésus. Je vous propose pour terminer maintenant d'avoir un temps de prière. Et je me suis dit, on va prier de la manière suivante. On va se mettre par deux, par binôme, en binôme. Alors vous pouvez vous mettre avec votre conjoint si vous voulez, ou alors sinon vous pouvez vous mettre avec une autre personne. Vous avez même le droit de bouger dans la salle, personne ne dira rien. Et on va se mettre par deux et pendant quelques minutes, pendant cinq minutes, on va prier. Si vous-même, vous avez un sujet de tempête, je dirais, quelque chose de lourd que vous portez, ou alors peut-être c'est votre conjoint ou peut-être c'est un ami, vous allez simplement le partager à l'autre personne en face de vous. Et cette personne va prier pour vous avec foi. Amen. Vous n'allez pas dire à Dieu, « Eh bien, j'espère, Seigneur Jésus, que tu vas agir. » Vous allez dire, « Jésus, je crois que tu es dans la barque de mon frère. Je crois que tu es présent. Je crois que tu es dans la barque de ce frère ou de cette sœur ou de cet ami que je connais. Je crois que tu es tout-puissant et ce matin, je te demande, Seigneur Jésus, de te manifester, d'agir, de sauver, de délivrer, de guérir, de manifester ta puissance pour la gloire de ton nom. Amen. Donc, on se met par deux. Si vous-même, vous n'avez pas de sujet de tempête, eh bien, tant mieux à partager. Dans ce cas-là, nous pouvons prendre un des sujets qui a été évoqué ce matin. Il y en a plusieurs qui passent par la tempête dans notre Église. Et alors, vous allez prier à votre tour pour ce sujet-là. Donc, il y en a un qui partage le sujet et l'autre qui va prier pour cette personne avec confiance et avec foi. C'est l'occasion de mettre en action, eh bien, la foi que nous avons. Sachant que nous n'avons pas besoin de recevoir un supplément de foi, sachant que la foi est déjà là, elle doit juste s'exprimer. Et moi, je terminerai par une prière générale tout à l'heure.